D'abord, j'aimerais qu'on parte en Angleterre, mes amis, pour accueillir notre invité. C'est un top, vraiment, puisqu'on va parler automobile avec un pilote marocain installé à Londres. Il est avec nous ce matin, il s'appelle Karim Sqad. Bonjour, c'est Karim.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio Mars pour parler un petit peu de vous. Vous êtes fait connaître notamment parce que sur votre voiture, il y a le drapeau marocain. Hein. La voiture de compétition.
Ben oui, il est déjà là depuis quelques années, effectivement.
Ouais. Et donc forcément, ça a fait le buzz. Vous êtes pilote GT5, alors vous allez nous expliquer tout ça. Mais juste avant, une première question, parce que vous avez 51 ans et vous avez commencé il y a quoi, une dizaine d'années?
Non, même pas. Il y a à peu près 5 ans.
Comment ça se fait? C'est quoi le déclic?
Ben, c'est un peu un hasard. Bon, quand j'étais jeune, bien sûr, je rêvais comme tout le monde après avoir vu les films hollywoodiens de bolides de course et autres, mais on savait que c'était hors de portée. Et il y a à peu près 6 ans, Porsche m'a invité pour une journée donc au circuit de Silverstone où ils ont un circuit privé de course et de test de voitures. Et donc, on a passé la journée ensemble dans ce qu'ils appellent une journée de développement de voitures. Et donc, à la fin de la journée, ils m'ont dit, tiens, est-ce que tu as déjà pensé devenir pilote? Donc, moi, je pensais qu'ils étaient sympas avec tous les clients qu'ils avaient invités. Et encore par chance, quelques mois plus tard, ils m'ont réinvité. Donc on a parlé, là je leur ai dit j'ai déjà fait cette journée avec vous, ils m'ont dit écoutez on a un cours de performance, je pense que ça durait 3 jours, est-ce que vous voulez le faire? J'ai dit très bien, on l'a fait et là, deuxième journée, on est en train de déjeuner, il me dit est-ce que vous pensez être pilote? Et là je me suis dit est-ce qu'ils sont pas en train de se foutre de ma gueule? Donc on en a parlé franchement, il m'a dit non, tu as tout ce qu'il faut, d'ailleurs... c'est un ami à moi qui fait passer les tests donc sur voiture une fois que vous devez faire votre diplôme de pilote et donc votre licence de pilote. Et si vous voulez, je l'appelle, s'il a fini son travail, il peut venir voir ce que vous pouvez faire avec la voiture. Je lui ai dit très bien. Donc le lendemain, ça a été organisé et donc je suis sorti sur la piste avec le moniteur et il m'a dit que j'aurais passé le test de pilote et que j'avais tout ce qu'il fallait pour courir. Et donc, c'est ça qui, en fait, qui était le déclencheur.
Il y a moins de 10 ans, comme quoi c'est possible à n'importe quel âge. Et la belle histoire, c'est que vous remportez justement le circuit de la Silverstone, le Grand Prix de la Silverstone durant le week-end du British GT sur Ginetta GT5 en 2020. Alors, c'est quoi le Ginetta GT5?
Ben, écoutez, je pense que tout le monde au Maroc...
Grand tourisme.
Qui court sur les touring cars. Donc, que ce soit les touring cars que tout le monde connaît. Bon, bien sûr, c'est des voitures surdéveloppées pour la course. Ce ne sont pas les Honda Civic qu'on achète ou les Audi A3 qu'on achète comme voitures de production. Vous avez les monoplaces qui sont au niveau F4 et les GT5 sont en termes de vitesse.
Combien de chevaux?
C'est-à-dire, c'est 1800 cc. Donc les touring cars, ça doit être en dessous de 2000. Donc tout ça, ça tourne à peu près à 200-220 km/h.
Moins. Non mais combien de chevaux, Karim? Combien de chevaux? Les chevaux, la puissance.
Alors les chevaux, ça je sais pas en français comment nous en
horsepower. Horsepower.
Oui, c'est 1800 HP. cc. C'est ça
c'est la cylindrée, mais la puissance de 200 chevaux, 250 chevaux, les voitures elles pèsent combien, les voitures à peu près?
Oui, c'est ça à peu près, oui.
Ouais.
Donc après le niveau supérieur, c'est donc la F3 GT4. Et après, bon, si vous voulez, en termes de vitesse, la F1, ça fait du 350-360 km/h. Une touring car GT5 ou une F4, ça fait du 200-230. Et après, donc, ce qu'on voit, que le niveau supérieur, c'est la GT4 qui fait à peu près 300 km/h et GT3 qui fait à peu près 317. Après, ça devient très, très difficile d'augmenter la vitesse.
Est-ce que... Il y a des questions, beaucoup de questions. Hicham Saïd Alaoui, moi je voulais juste lui poser la question par rapport à est-ce qu'il y a un entraînement spécifique justement pour préparer les Grands Prix?
Ben, écoutez, c'est le même entraînement que tous les pilotes font, c'est-à-dire qu'il y a un entraînement sur circuit, mais le temps coûte très cher sur circuit, donc il y a tout un entraînement sur simulateur avant. Tout le monde a des simulateurs chez eux à la maison, plus ou moins sophistiqués, donc il y a des simulateurs qui coûtent pas grand-chose, des simulateurs qui peuvent coûter plus d'un million de dirhams, donc tout dépend de ce qu'on veut avoir. Après, il y a des simulateurs professionnels qu'il y a, dont il y en a un à côté de Silverstone, mais il y a toute une préparation psychologique, nutritionnelle, physique. Oui, ça se prépare. Tous les circuits se préparent beaucoup. Après, il y a tout le setup de la voiture qu'on doit discuter. Est-ce qu'on veut être plutôt défensif? Est-ce qu'on veut plutôt attaquer? Est-ce qu'on veut plutôt avoir de la vitesse sur une ligne droite? Parce qu'une voiture, le setup, c'est toujours des compromis. C'est-à-dire, on peut pas tout avoir. On doit choisir une variable au détriment d'une autre. Donc après, c'est des termes de stratégie. Si on est rapide sur le circuit, est-ce qu'on pense qu'on va vouloir doubler sur les lignes droites ou là dans les rentrées de virage, dans les sorties de virage, ça se discute et ça se met en place. Et après, soit on a du succès avec, soit on n'en a pas.
Ouais. Et justement, Sikarim, moi, ma question, c'est que il faut aussi rappeler que vous êtes un dirigeant reconnu en Angleterre, également dans la région. Mais comment on fait pour concilier un peu tout ça? Est-ce qu'on ne dort pas? Est-ce qu'on est entouré d'une super équipe à qui on peut beaucoup déléguer? Comment vous gérez tout ça?
Ben, c'est vrai qu'il faut s'entourer de personnes qui sont, d'après moi, mieux que vous. Moi, je cherche à avoir des professionnels qui sont mieux que moi. Je dirige donc après la vision, la direction stratégique des sociétés, mais ce n'est pas moi qui prend, disons, les décisions au jour le jour. Donc, je suis au niveau stratégique, au niveau des développements de la technologie, au niveau des grands investissements qui vont se faire sur le moyen terme. Et c'est la même chose dans la course de voiture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose au jour le jour. Si on veut vraiment se développer, il faut avoir un plan de développement sur plusieurs années. Donc moi, quand j'ai commencé à faire les courses de voiture, le podium, je l'ai vu de très loin. Et ça m'a pris 3 ans avant de monter sur un podium. Donc tout ça se travaille, c'est de la longue haleine. Mais oui, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc il n'y a rien qui vient gratuitement.
Tout à fait. Prochain Grand Prix, c'est quand?
Alors là, la saison pour tout le monde va commencer. D'ailleurs, elle aurait déjà dû commencer. J'aurais dû être sur le circuit justement de Silverstone la semaine dernière. Ça a été annulé pour cause de neige. Donc il avait neigé les trois jours d'avant. Donc là, on commence les tests officiels, c'est-à-dire on est obligé de participer à certaines journées sur lesquelles il y a que les pilotes qui vont courir donc sur ces courses-là qui ont le droit d'y participer. Et c'est là-dessus qu'on va maintenant tuner la voiture pour savoir comment est-ce qu'on va la développer. Donc là, la semaine prochaine, je serai sur Houlton Park. 3 jours plus tard, je serai sur Silverstone. Et là, la saison va commencer le premier week-end d'avril.
Oui. Et pour moi, quand on parle de sport en Grande-Bretagne...
Avec toujours, pardon, le drapeau marocain, faut en embellir.
Bien sûr, c'est ça.
Oui, donc on va sortir un nouveau design sur la voiture, sur lequel effectivement on a encore le drapeau marocain. Mais disons que la voiture sera plus stylée. Et le drapeau marocain est sur le toit de la voiture, effectivement.
Sachant que pour moi, quand on parle de sport en Grande-Bretagne, une autorité spontanée, il y a Wimbledon pour moi, il y a Wembley et il y a Silverstone. Peut-être qu'on parle beaucoup des deux premiers, un peu moins du troisième, mais Silverstone, c'est un circuit mythique, même tout sport confondu. Et je sais pas si pour vous, il a une saveur particulière ou c'est juste un circuit comme un autre.
Ah ben effectivement, c'est très particulier pour moi parce que c'est là-dessus que j'ai découvert que j'avais les possibilités de devenir pilote. C'est là-dessus que j'ai gagné mon premier podium et ma première course. C'est là-dessus que j'ai vu mes premiers circuits de Formule 1, que j'ai été autorisé à être avec les mécaniques dans des teams pendant les courses de Formule 1, de voir comment ça se passe. Donc effectivement, ça, et j'habite pas loin. Donc c'est mon circuit qui est juste à 35 minutes de chez moi, quoi.
Magnifique.
Ouais, bravo. En tout cas, ça fait plaisir. Bravo. Merci beaucoup, c'est Karim.
J'espère que ça inspire d'autres.
Ah oui, oui. Bah évidemment, ça fait C'est plaisir de l'entendre de bon matin. Bah, courage.
Ben, ce serait bien, mais moi je voulais juste dire que tout le monde peut avoir des rêves. Il y a pas d'âge pour accomplir ses rêves. Et du moment qu'on s'accroche, ben, on peut toujours faire quelque chose.
Ouais. Ça,
d'ailleurs, on l'a vu avec l'équipe de foot, qui aurait pensé honnêtement que l'équipe nationale aurait atteint ces niveaux-là. Et comme Ergueragui disait, comme Dironia, il faut y croire, il faut travailler, il faut.
Et on l'a pensé.
Oui. Et Walid l'a fait.
Et vous étiez au Qatar pour supporter les Lions de l'Atlas, c'est Karim.
Pardon?
Vous étiez au Qatar, vous avez assisté à cette
conférence. Oui. Mais écoutez, c'était une expérience exceptionnelle. Hein. On est parti au Qatar, mon frère et moi, et on n'avait pas le billet en poche. Et on pensait qu'on s'était fait avoir parce qu'on l'avait acheté sur Internet. Mais une fois arrivé au Qatar, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans notre situation, qu'on n'était pas les seuls Marocains qui étaient arrivés sur place avec une grande dose d'ambition, une grande dose d'espérance et pas de ticket en poche. Mais alhamdoulilah, il y a pas mal de tickets qui ont été distribués. On a pu rentrer dans le stade et c'était une expérience inoubliable.
Oui. Et les résultats de l'enquête sont pour bientôt, juste pour vous rassurer.
Tout à fait. Merci en tout cas, c'est Karim.
Distribuer, elle a dit.
C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir invité.
Un plaisir de vous entendre ce matin. À très bientôt sur Radio Mars.
Definite, BEP, we reppin' it, so turn me up.